1 Timothée 6. Que tous les esclaves qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des maîtres croyants ne les méprisent pas parce qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant plus que ceux qui profitent de leur bon et prompt service sont des fidèles et des bien-aimés. Enseigne ces choses et exhorte. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celle de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. Or la piété avec le contentement est un grand gain. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Or ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs.
La dernière fois, il a été vu, je crois, étudier les deux premiers versets de ce chapitre 6. Il a été vu que la condition d'esclave n'est pas une condition qui a été donnée de Dieu à la base, mais qui est une conséquence du péché. Mais nous voyons que même dans cet état de choses, Dieu reconnaît une relation de subordination. Et nous voyons en cela que nous n'avons pas à nous investir pour améliorer le système de ce monde. Et nous n'avons pas à le faire parce que même en étant esclave, le chrétien est finalement appelé à avoir une marche digne de tout honneur, afin, verset 2, que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Fin du verset 1. Nous avons relevé l'enseignement positif de ce l'autre enseignement positif en Tite 2, verset 9, qui est que donner aux esclaves d'être soumis à leur propre maître, à leur complaire en toutes choses, afin qu'ils ornent en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Nous voyons donc que nous avons un témoignage à rendre dans le monde et devant le monde. Et nous voyons ici que nous pourrions avoir le danger, au verset 2, de dire finalement à notre maître, s'il était chrétien, de lui dire simplement, peu importe le respect que je te dois sur la terre, nous sommes tous les deux rachetés. Et nous voyons que non, dans la maison de Dieu, l'ordre est de simplement honorer et apporter un plus grand honneur encore à notre frère, même si c'est notre maître. Notre but ici, ici-bas, est donc notre témoignage à Jésus-Christ. C'est d'avoir une marche digne de tout honneur pour que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés.
On peut tirer la conclusion aussi de ces deux premiers versets de 1 Timothée 6, c'est que le christianisme n'est pas une force ou un moyen de corriger les injustices sociales dans le monde. Et donc, Paul avertit sur tout ce qui pourrait entraver les relations que nous pouvons avoir les uns et les autres, en particulier les maîtres et aussi les serviteurs ou les esclaves. En particulier, donc, bien sûr, quand ils sont frères. Et l'apôtre a toujours en vue le témoignage de l'assemblée dans le monde. Et donc, s'il y a des entraves ou des difficultés de relations entre les frères, eh bien, cela, bien sûr, va entacher le témoignage de l'assemblée de Dieu par rapport au monde. Et alors, si on tourne la page, et l'apôtre ajoute, si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas de saines paroles, etc. Donc il semble que dans les premiers temps, certains enseignaient que les chrétiens devaient défendre leurs droits dans le monde et sans doute s'impliquer pour réformer les injustices qu'il y avait dans le monde. Et donc l'apôtre s'élève contre ces choses et dit « si quelqu'un enseigne autrement ». Il manifeste bien sûr son désaccord par rapport à une telle position dans le monde. Le christianisme n'est pas une force ou un moyen de réformer le monde. Et si quelqu'un enseigne autrement, si nous lisons toutes les épîtres de tous les apôtres, que ce soit de l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, nous voyons le souci qu'avaient ces apôtres quant à la vérité. Et dans la première épître à Timothée, dans la deuxième épître à Timothée et dans l'épître à Tite, il nous est parlé beaucoup de la saine doctrine, les saines paroles, la saine doctrine, le saint enseignement, la doctrine qui est selon la piété, la vérité qui est selon la piété. Il nous est parlé aussi de la doctrine des apôtres. Il nous est parlé aussi dans la deuxième épître de Jean de la doctrine de Christ. Alors pourquoi les apôtres désiraient maintenir la vérité, la garder? Eh bien c'est parce qu'ils avaient reçu cette vérité, la vérité, ce saint enseignement par révélation. Et donc, ils avaient reçu, et nous pouvons lire par exemple dans la première épître aux Corinthiens, deux ou trois versets peut-être, pour montrer pourquoi les apôtres veillaient absolument à la pureté de la doctrine qui était enseignée dans l'Assemblée de Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 10, « Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit. » Ensuite, dans l'épître aux Galates, au premier chapitre, verset 11, « Or je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme, car moi je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ. » Encore dans la deuxième épître de Pierre, « premier chapitre, au verset 21. Il nous est dit, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé étant poussés par l'Esprit Saint. Donc les apôtres ont reçu la parole de Dieu, ce qu'ils devaient transmettre, et nous voyons qu'il s'agissait d'une révélation divine. Et donc, si nous lisons attentivement toutes les épîtres, nous voyons ce désir permanent des apôtres de maintenir la vérité, ce qu'ils avaient reçu par révélation. Et ce qui est assez remarquable dans la deuxième épître de Pierre, on voit que c'est Dieu qui a l'initiative. C'est Dieu qui se révèle, et Dieu a ce désir de toute éternité de se révéler à l'homme. Et donc, il nous est dit, de saints hommes de Dieu ont parlé étant poussés par l'Esprit Saint. C'est Dieu qui veut se révéler à nous, et donc le moyen par lequel il a eu ce désir de se révéler, c'est par Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, son Fils, et aussi par le moyen de la parole de Dieu. Et donc nous voyons le désir des apôtres de maintenir la pureté de la doctrine, la pureté de ce qu'ils avaient reçu, et ce désir de nous le transmettre dans leur intégrité. Alors il y a cette expression « enseigner autrement ». Et nous voyons que l'apôtre condamne fermement toute déviation. Et la première épître à Timothée, nous voyons que l'assemblée est colonne et soutien de la vérité. Et donc, dans la maison de Dieu, pour l'apôtre, eh bien, il n'est pas question que l'on enseigne autrement. Et donc, nous voyons que l'apôtre, il condamne fermement toute déviation à la vérité. Et ce qui est assez remarquable dans le verset qui nous occupe, c'est enseigner autrement, il nous dit que c'est refuser les saines paroles appelées celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il dit ça? Si nous nous référons à ce que nous avons lu dans l'Épître aux Galates, eh bien, l'apôtre avait reçu ces paroles de Jésus-Christ. C'était une révélation de la part de Jésus-Christ. Et donc, enseigner autrement, eh bien, c'est au fond refuser pour lui les saines paroles appelées ainsi celles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, au fond, ce qu'il transmettait, ce qu'ont transmis les apôtres, que ce soit Paul et les autres apôtres, eh bien, ne différait pas de celle de Jésus-Christ. Et cela, on peut souligner ainsi qu'il s'agit bien sûr de la pureté des paroles du Seigneur. Et alors, si nous lisons en particulier ce qui nous est dit dans l'évangile de Jean à propos des paroles de notre Seigneur. Dans l'évangile de Jean au chapitre 7. Verset 16. Jésus donc leur répondit et dit, « Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu ou si moi je parle de par moi-même. De tels versets soulignent l'importance de garder les paroles de Jésus-Christ. Et nous voyons que la doctrine de Christ, comme il nous est dit dans la deuxième épître de Jean, la doctrine ou les paroles de Jésus-Christ, eh bien, même le Seigneur, il dit qu'il nous a transmis les paroles, mais même celles de Dieu. Il dit « Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu. » Et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on réfléchit sur de tels passages de l'Écriture, c'est-à-dire que Dieu a voulu se révéler. Le Seigneur Jésus nous a donné des paroles qui sont même celles de Dieu, qui nous ont été transmises aussi par les apôtres, par l'apôtre Paul et les apôtres. Eh bien, nous voyons que le désir de l'apôtre et des apôtres, c'était de nous transmettre donc les paroles mêmes, celles de Jésus-Christ. Alors, quand nous lisons de tels passages de l'Écriture, eh bien, quelle grâce Dieu nous a faite que nous puissions avoir une Bible, un Ancien Testament, un Nouveau Testament, aussi littéral que possible. Et le grand danger actuel aussi, il y a d'autres versions de la Bible. Et le souci de celui qui a traduit la Bible que nous possédons entre les mains, ça a été d'avoir une traduction aussi précise que possible et littérale, de telle manière que nous ayons entre les mains une version aussi proche possible que celle que Dieu voulait nous donner. Encore une remarque sur le terme grec qui est employé dans le Nouveau Testament pour les paroles de Jésus-Christ. Le terme grec, c'est « logos ». Et le mot grec « logos » ne se réfère pas à quelques paroles isolées ou quelques paroles particulières. Et le choix de l'apôtre, enfin le choix dicté par le Saint-Esprit, eh bien, est quelque chose de précieux parce que le mot « logos » exprime qu'il s'agit de l'expression des pensées de Jésus-Christ. Et c'est pas, et cela veut dire que c'est un ensemble de choses et qui sont vraiment selon les pensées de Jésus-Christ. Et donc, l'apôtre Paul a transmis, au fond, les paroles de Jésus-Christ, qui étaient l'expression précise des pensées de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, un mot sur l'expression « la doctrine qui est selon la piété ». Dans Tite, je crois que c'est au premier chapitre et dans le premier verset, ou le deuxième verset, il est parlé de la vérité qui est selon la piété. Et c'est une expression peut-être qui peut être peut-être difficile à comprendre. Et ce qui est important, c'est que la doctrine, quand elle est pure, eh bien, elle nous montre ce que Dieu attend de nous dans notre marche, dans notre conduite, afin que nos vies soient selon ses pensées. La doctrine selon la piété, la vérité selon la piété, eh bien, le désir de Dieu, c'est que notre conduite, notre marche, nos vies soient en relation avec ce que lui nous a donné, la vérité et la doctrine. La doctrine qui nous a été donnée, la vérité qui nous a été donnée, nous est donnée pour que nos vies et notre marche, notre conduite, soient une conduite que Dieu peut apprécier. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est l'association des deux choses. C'est la vérité selon la piété, et, ou la doctrine qui est selon la piété. Nous ne devons pas imaginer que nous pouvons marcher d'une manière indépendante par rapport à la vérité ou à la doctrine. Et si Dieu nous dit que c'est la doctrine selon la piété ou la vérité selon la piété, eh bien nous devons la connaître, la vérité, nous devons connaître la doctrine afin que notre marche soit une marche heureuse devant Dieu. Il n'est jamais parlé d'une conduite et plus tard de la doctrine ou de la vérité. La vérité connue nous amène à marcher d'une manière heureuse devant Dieu. Ne jamais oublier que Dieu fait le lien entre la vérité et notre marche, entre la doctrine et notre marche. Et donc, c'est d'abord la vérité, c'est d'abord la doctrine à connaître afin d'avoir cette marche selon la piété.
Enseigne ces choses et exhorte. Ça nous place devant tout ce qu'on a vu avant, entre autres. Pas juste les quelques versets qui précèdent, mais tout ce qu'on a, pour ne pas prendre toute l'épître, déjà ce qu'on a vu à travers le chapitre 5. Donc c'est un ensemble de choses qui touchent à des domaines assez vastes, mais qui ont tous cette chose en commun, enseigne ces choses et exhorte. Donc, encourage, avertis, dans le sens de tout ce que je viens de te dire. C'est un peu une expression très courte, très dense, résumée que Paul exprime là, où il balaye tout ce qu'il vient de présenter. Et en contraste, on a ce « enseigner autrement ». Et je crois qu'on a deux mots, deux expressions qui sont un peu la clé pour comprendre ce qui n'est pas dans ce autrement, ce qui est absent de ce autrement, ça a déjà été dit en partie, mais pour simplement recentrer les choses de façon simple, le premier point clé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donner cette première place au Seigneur Jésus. Et à tout ce qui découle, ses paroles, sa marche, son œuvre, sa personne, on peut passer en revue tout ce qui le concerne. Le mettre lui en premier, le mettre lui devant. Et associé à cela, la deuxième chose, c'est tout simplement la piété. La piété, c'est la marche pratique pour Dieu, avec Dieu. C'est une marche qui donne toute sa place à Dieu en premier. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, la piété. Et si ce sont les points clés aussi bien de ce que nous recevons que ce que nous transmettons, nous serons dans le chemin qui est selon la piété, qui est selon les paroles du Seigneur Jésus. En contraste, on a la suite, début du verset 4. Si j'abrège, si quelqu'un enseigne autrement, je saute, il est enflé d'orgueil. L'orgueil, c'est quoi ? C'est mettre l'homme, c'est se mettre soi-même, l'homme, nous, moi, devant le Seigneur Jésus, devant, à la place de la piété. Ça nous donne un contraste qui est très violent, là. Et c'est un contraste qui parle. Et au fond, quelque part, quand nous écoutons un enseignement, ce sont les pierres de touche pour savoir si cet enseignement est bon. Où est le Seigneur ? Quelle place a le Seigneur dans cet enseignement ? Quelle place a la marche de la foi, la marche de la piété, la marche qui donne à Dieu la première place ? Qui donne à Dieu toute autorité ? Et là, si on a ce filtre pour écouter, les choses deviennent claires. Il y a d'un côté ce qui est vain, inutile, et il y a d'autre côté ce qui est contre Dieu, ce qui est contre la saine doctrine, qui n'est pas une saine doctrine. Et c'est... Paul nous donne là les indices clés pour savoir discerner, parce que nous sommes tous appelés à discerner et à trier. Il nous faut nous rappeler aussi que quand Paul écrit ces choses, il y a peut-être déjà des évangiles, l'un ou l'autre évangile qui circulent, mais le Nouveau Testament écrit n'est pas encore là. Il est en train de s'écrire. Donc ce que Michel a relevé tout à l'heure sur tout ce côté de paroles révélées aux apôtres pour les transmettre a toute son importance. Et dans ce contexte, s'imaginer prophète et se prétendre avoir des révélations de Dieu, c'est une chose critique. Ceux qui écoutent doivent pouvoir juger des choses. Mais est-ce que ce qu'il prétend que Dieu lui a révélé, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vrai ? Ben voilà. Quelle place pour le Seigneur Jésus ? Quelle place pour les paroles du Seigneur Jésus ? Quelle place pour la piété, pour la marche de la piété, pour la marche de la foi ?
La piété, elle est citée 8 fois dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, versets 2 et 3, au chapitre 4, versets 7 et 8, et au chapitre 6, versets 3, 5 et 11.
Enseigner autrement, si nous lisons attentivement les épîtres encore, les enseignements autres, les doctrines étrangères, les fausses doctrines, ne sont jamais présentées par les apôtres comme de simples désaccords, mais toujours comme des dangers pour l'Église, des dangers spirituels majeurs. Des menaces pour l'Église. Et donc Paul nous dit là que toute altération des paroles du Seigneur, de l'Évangile de Christ, eh bien c'est un danger. Et ce ne sont pas des simples désaccords que nous devons oublier les uns les autres, si tel était le cas, mais les fausses doctrines, eh bien, doivent être jugées et... surtout ne pas les présenter comme de simples désaccords entre des hommes. Et pourquoi les fausses doctrines sont dangereuses ? Et dans 2 Timothée, au chapitre 2 et au verset 18, il nous dit qu'elles renversent. Et dans Tite aussi, je crois, au premier chapitre, verset 11, il est parlé de maisons qui sont renversées. Et donc, l'enseignement de Paul et des apôtres est, nous devons faire très attention afin de garder la pureté de la doctrine dans l'assemblée, parce que progressivement, elle peut être accepter, et puis le bout de la chaîne, c'est de renverser la foi et de renverser même des maisons. Alors, peut-être un verset aussi dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. On va dire Éphésiens 4, verset 11. Donc il s'agit de Christ qui est monté dans le ciel, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Nous voyons que, ici, dans l'Épître aux Éphésiens, que nous pouvons faire la distinction entre un faux docteur et un frère qui a reçu un don particulier pour enseigner. Et nous voyons que le but, c'est le verset 12 de Éphésiens 4, eh bien, c'est le perfectionnement des saints. Et toute doctrine étrangère n'apporte jamais le perfectionnement des saints. Deuxièmement, pour l'œuvre du service, c'est-à-dire que l'enseignement qui est donné va préparer des frères pour servir, qui vont être appelés sans doute dans un service particulier, et donc les dons que le Seigneur a donnés va former ses frères pour qu'ils accomplissent cette œuvre de service à la gloire de leur Seigneur. La troisième chose, c'est pour l'édification du corps de Christ. Les faux docteurs, eh bien, ils n'édifient pas, ils détruisent. Et donc, la caractéristique essentielle d'un faux docteur, c'est qu'il détruit. Et il n'édifie pas. Et enfin, il nous est dit, afin que jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Le but des dons, de tous les dons, que ce soit les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, c'est que nous arrivions tous à l'unité de la foi, c'est-à-dire à la compréhension de la vérité de Dieu, et bien que nous soyons tous d'accord pour la comprendre de la même façon et ensemble. Toute déviation, et bien quelque part, il y a une anomalie, il y a quelque chose qui ne va pas. Le but au fond du Seigneur quand il donne ses dons, eh bien, c'est pour la croissance, notre perfectionnement, pour que nous soyons aptes à le servir, à servir Dieu. Ensuite, pour qu'il y ait cette édification du corps de Christ, tous unis ensemble. Et enfin, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. C'est-à-dire, s'il y a des désaccords entre nous, par exemple, eh bien, nous n'avons pas été amenés à ce moment-là à comprendre les choses de la même façon. Le but des dons, c'est pour que nous comprenions la vérité de Dieu de la même façon. Et donc, nous devons veiller entre nous à ce que nous comprenions la parole de Dieu, la vérité, la doctrine de Christ de la même façon. Et nous voyons que nous pouvons faire la distinction entre les opérations de l'Esprit de Dieu qui nous amènent à cette unité de la foi, à une même compréhension de la vérité, et tout ce qui peut venir de l'homme, ses raisonnements en particulier, ou la sagesse de l'homme, eh bien, qui va nous entraîner dans un chemin qui va dévier de la vérité. On pourrait dire encore un mot sur les interprétations. Les interprétations de la parole de Dieu. Il nous est parlé des interprétations dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Quand il nous est parlé des interprétations, il nous est parlé de l'interprétation des songes, l'interprétation des visions, il nous est parlé des interprétations des paraboles en particulier, et le Seigneur, dans sa grâce, nous a interprété souvent, je ne sais pas si toutes ont été interprétées, les paraboles dans le Nouveau Testament. Il n'est jamais parlé de l'interprétation de la vérité. Jamais. Et c'est un grand sujet, parce qu'on voit de plus en plus dans la chrétienté des interprétations de la vérité. Il nous est dit simplement que la parole de Dieu, elle s'interprète elle-même. Et en particulier, nous savons que dans l'Apocalypse, il y a des mots qui sont difficiles, des symboles qui sont difficiles. Et les frères qui sont occupés d'interpréter à ce moment-là ces symboles, eh bien, ils ont cherché dans la parole de Dieu où ces termes étaient employés ailleurs, et ils ont réalisé que la parole de Dieu, elle s'interprète elle-même, comme nous le lisons, je crois, dans la deuxième épître de Pierre aussi. Nous l'avons lu quelque part tout à l'heure, dans le premier chapitre, verset 20, il nous est dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même ou naît d'une interprétation particulière. Prophétie, ici, c'est dans le sens de la parole de Dieu. Et alors, c'est intéressant parce que le sujet, est-ce que la vérité s'interprète-t-elle ? Dieu nous a donné sa parole de telle manière que nous la comprenions par l'Esprit de Dieu. Et la vérité, si nous lisons ce qui nous est dit dans le Nouveau Testament, eh bien, elle se reçoit. Elle se reçoit dans le cœur et elle se reçoit dans la conscience, afin qu'elle produise dans le croyant, en nous, eh bien, des fruits pour Dieu. Faisons très attention quand quelqu'un nous dit que on pourrait interpréter différemment ces passages de l'Écriture. En tout cas, à ma connaissance, eh bien, la vérité ne s'interprète pas, mais elle se reçoit dans le cœur et dans la conscience.
Peut-être rapidement une courte pensée sur... On a parlé un certain nombre de fois des fausses doctrines. Et peut-être pour les plus jeunes, peut-être donner un exemple. On a parlé également d'interprétation, mais là vraiment sur la notion des fausses doctrines. On a un verset qui, il y en a plein d'autres, mais un verset qui peut nous aider à essayer de comprendre un peu cette notion de fausses doctrines dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 15. Or, soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Donc là, on a un exemple assez, une illustration assez parlante, je trouve. Donc, on voit bien, hein, quelqu'un qui arrive et qui se fait passer pour une brebis, mais qui en fait est un loup, c'est un déguisement, quoi. La notion de fausse doctrine, c'est un peu ça, hein. C'est quelque chose qui nous a été donné et enseigné par le Seigneur et qu'on pervertit, qu'on change. Alors permettez-moi, cher jeune, de vous donner un exemple concret, ça sera beaucoup plus parlant. Il y en a plein. Hein. Que Marie n'était pas vierge, que l'enfer n'est pas éternel, que ça sera qu'un moment de passage. Non, la parole nous enseigne absolument pas ça, c'est de la fausse doctrine. Que pour être sauvé, il faut que tu aies un certain nombre d'œuvres et que tu fasses un certain nombre de choses, toi-même, de par tes propres forces. C'est absolument faux. La parole n'enseigne pas ça. Le Seigneur ne nous enseigne pas ça, c'est de la fausse doctrine. Que tu peux perdre ton salut. C'est absolument faux. Personne ne les ravira de ma main, c'est de la fausse doctrine. Que la grâce est un ticket spécial qui nous permet de pouvoir, jour après jour, profiter autant qu'on veut du péché. C'est faux, la fausse doctrine. Ce n'est pas ce que la parole nous enseigne. Donc il est important d'avoir en tête vraiment cette image de quelque chose qui nous a été enseigné par le Seigneur et qu'on transforme complètement. C'est ça la fausse doctrine.
Ceux qui enseignent autrement là, Paul énumère un certain nombre de caractères. Il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, ayant la maladie des questions et des disputes de mots. De naissent d'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes, corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. Je lis un autre passage en regard, Galates 5, verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables, etc. On remarque que dans ces caractères que Paul relève en 1 Timothée 6, on retrouve un certain nombre, quelques-uns, que l'on a dans cette liste de Galates 5, qui nous dit les œuvres de la chair. Et en contraste, Galates 5 nous parle du fruit de l'esprit, et on a des choses tout à fait différentes. Amour, joie, paix, longanimité, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, tempérance. Associé à la fausse doctrine, associé à des mauvais enseignements, on a des caractères moraux qui se manifestent, immanquablement. Le plus grossier dans un sens, c'est le dernier, qui estime que la piété est une source de gain. On peut faire de l'argent sur le dos de la piété. On peut utiliser la piété comme prétexte ou comme apparence pour faire de l'argent. Tous les autres entrent, ils sont associés. Querelles, paroles injurieuses, mauvais soupçons, disputes, etc. Ce n'est pas l'esprit qui agit, c'est la chair, c'est l'homme, Satan derrière qui titille et qui provoque. La fausse doctrine, si on s'y arrête un petit peu, c'est pas la peine de s'y arrêter beaucoup, on voit très vite ces caractères moraux qui sont les résultats de la chair. Précise de la chair, pour les plus jeunes, c'est un mot qui est un petit peu qu'on utilise facilement sans toujours le repréciser. La chair, c'est quoi? C'est notre nature d'homme pécheur sans Dieu, où Dieu n'a pas voix au chapitre, et où c'est notre nature de pécheur qui s'exprime. Juste aussi une précision à propos de ce qui a été dit par rapport aux interprétations. Je crois qu'il faut là aussi préciser le vocabulaire. Oui, la vérité ne s'interprète pas, mais la vérité, c'est un mot valise où on met beaucoup de choses dedans, et je crois que là, il ne faut pas mélanger deux termes. On utilise facilement le mot d'interpréter pour expliquer, et les explications, ça fait partie de l'enseignement. Donc nous devons interpréter. Quand nous expliquons, nous interprétons. Je ne retrouve plus le passage dans Luc. Il y a le récit où le Seigneur annonce ce qui arrivera à Jérusalem, qui est un peu différent du même récit dans Marc et dans Matthieu. Et en particulier, il y a cette expression « Vous verrez Jérusalem entourée d'armées » et où on voit, quand on lit soigneusement les passages de Matthieu, de Marc et de Luc, que Luc parle à deux époques en même temps. Il parle en même temps de la destruction de Jérusalem, qui pour nous est du passé, et de la destruction de Jérusalem, ou du siège de Jérusalem, qui est encore prophétiquement à venir. Alors que Matthieu et Marc ne parlent que du deuxième acte, de cette chose qui est future. Mais comparer ces passages, essayer de comprendre en quoi ils se ressemblent et en quoi ils sont différents, ça c'est interpréter. C'est poser ce que nous dit la parole côte à côte et essayer d'entrer dans ce qu'elle nous dit et voir la différence qu'il y a et que signifie cette différence entre trois récits qui sont le même schéma mais avec des différences parce qu'ils ne s'appliquent pas exactement au même temps. Ça rentre dans ce qu'on met souvent le mot d'interpréter. Donc il ne faut pas se tromper sur le sens de ce terme-là, et dans un sens comme dans l'autre, l'utiliser à travers.
Pour compléter ce qui vient d'être dit, il faut absolument faire la différence entre un docteur qui possède un don spirituel et qui est donné par le Seigneur pour enseigner la sainte doctrine. Le docteur, il éclaire l'écriture. Il aide les croyants à grandir dans la foi. Il explique, il clarifie, mais il n'interprète pas. Pour moi, la différence qui est fondamentale, c'est un docteur, il va garder la vérité dans son cœur, dans son âme, et il va la transmettre, il va l'expliquer, il va clarifier ce qui est difficile, il va aider à comprendre, et il va enseigner cette saine doctrine. Mais il ne l'interprète pas. L'interpréter, c'est un peu ce que nous trouvons dans 2 Timothée. Au chapitre 2, donc l'apôtre dit à Timothée, verset 15, étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. Exposer justement la parole de Dieu, la vérité, ce n'est pas l'interpréter, c'est la clarifier, c'est l'expliquer, c'est l'enseigner, c'est la transmettre. L'interprétation, il y a toujours un élément humain. Et il faut faire très attention à ne pas ajouter de notre propre intelligence naturelle, de nos propres raisonnements, des choses qui ne sont pas selon la vérité. Et donc, il faut, à mon avis, et je crois que cela a été dit et cela a été relevé, il y a une différence entre exposer justement la parole de Dieu, l'expliquer, et on voit que l'apôtre ajoute « Mais évite les discours vains et profanes, car ceux qui s'y livrent iront plus avant dans l'impiété. » C'est-à-dire le fait d'ajouter des éléments humains à travers l'interprétation, eh bien cela amène à des discours vains qui ne mènent à rien et profanes. Ce n'est plus une doctrine selon la piété, ce n'est plus la pureté de la doctrine. Je pense qu'il faut faire bien la distinction entre découper droit la parole de Dieu, l'expliquer, l'exposer justement et se garder surtout d'ajouter quelque chose de nos propres raisonnements qui sont absolument vains et nuisibles.
131, partie de la troisième strophe.
God.